Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alors, Guillaume Millet, on va parler de fatigue. Moi, j'aimerais bien savoir déjà pourquoi, en tant que vieux de la vieille, des sports d'endurance sous toutes leurs formes, parce que j'ai bien cru comprendre que tu es non pas juste un trailer ou un fondiste, mais un passionné de sport, pourquoi est-ce que tu es si bien placé pour pouvoir parler de fatigue ? Qui es-tu, Guillaume Millet ?
Alors, déjà je suis un vieux, comme tu l'as dit, tu as commencé par ça, je t'en remercie. Blague à part, c'est comme ça, effectivement, je suis un vieux sportif, oui, ou un ex-sportif qui essaye quand même de continuer à faire un peu de sport.
Alors, par donc, vieux de la vieille, je voulais dire que simplement, tu as connu l'ultra-trail à ses débuts.
Je plaisante évidemment, mais je plaisante.
Tu pourrais être tatillon, hein, tu sais, j'en ai eu des
Non, t'inquiète pas, c'était pour rire, j'assume mon âge tout à fait, je peux même le donner, j'ai 53 ans.
Non mais tu les fais pas, t'as une peau magnifique.
Oui, voilà, j'ai surtout pas de cheveux, donc ça fait longtemps que je fais 53 ans, en fait. Alors, oui, ça fait longtemps que je fais du sport, effectivement, je suis tombé de là, j'ai su faire du ski de fond pratiquement avant de savoir marcher, je suis sur des skis de fond, j'ai commencé effectivement par ça depuis l'âge de 4-5 ans, et puis j'ai fait du sport en compétition, sport d'endurance, enfin, d'autres sports aussi, mais surtout d'endurance depuis toujours, et j'ai arrêté la compétition il y a une dizaine d'années environ, mais je pratique encore dès que j'ai l'opportunité, donc à peu près tous les sports d'endurance, effectivement. Donc j'ai fait donc ski de fond, ensuite j'ai fait pas mal de raids multisports dans les années 2000, et puis du trail et de l'ultra assez vite en 2005-2000, voilà, à partir de 2000, un peu avant même, 2003 quoi. Mon premier UTMB, c'était le deuxième, c'est-à-dire 2004. J'ai fait le premier Tour des Géants en 2010. Et puis là, j'étais déjà un peu en fin de carrière avec un petit C. Et voilà, donc, et puis, comme on vient de le rappeler, maintenant je commence à prendre un peu d'âge. Donc je connais aussi la fatigue par le côté, quand on est moins entraîné et qu'on cherche quand même à refaire du sport santé, il y a d'autres problématiques qui existent. Donc je sais pas si je suis très bien placé pour parler de fatigue, mais il se trouve que je travaille aussi sur ce sujet d'un point de vue professionnel, puisque je suis enseignant-chercheur à professeur des universités à Saint-Étienne. Et depuis que j'ai débuté ma carrière, il y a aussi pas mal d'années, j'ai toujours travaillé presque exclusivement sur ce sujet, à la fois chez la fatigue du sportif, mais également la fatigue des patients. Et de plus en plus d'ailleurs la fatigue des patients, différents types de pathologies, le cancer, la sclérose en plaques, les patients qui sont passés en réanimation, les personnes âgées ne sont pas des patients évidemment, mais c'est une population aussi un peu fragile, au moins pour certains, etc. etc. Donc je pense être relativement bien placé effectivement pour parler de ce sujet-là, en tout cas je l'espère.
Bien, merci pour ton grand âge. Est-ce que tu peux juste rappeler tes principaux faits d'armes, notamment UTMB et Thor ? Je crois que Thor, tu es rentré avec une deuxième ou une troisième place.
J'ai fait qu'une fois le Thor, c'était la première édition.
Ça t'a suffi ?
C'était un peu la fin de carrière. Effectivement, ça a marqué ma fin de carrière. Alors, c'est peut-être un hasard, hein. Je pense qu'on peut tout à fait faire le Thor et continuer à courir pendant des années. Mm-hmm. Moi, j'étais déjà un peu sur la fin en termes de... pas tant de motivation, mais j'ai couru, comme je l'ai rappelé, pendant pas mal d'années, donc à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose. Mais c'était bien de finir un peu là-dessus. J'ai essayé de courir encore l'année d'après, mais j'avais une espèce de blessure à la hanche qui n'est pas passée tout de suite. Et puis après, je suis parti sur un autre projet professionnel au Canada, donc j'ai arrêté de courir. Donc bref, pour répondre à ta question, effectivement, troisième au Thor, mais mes principaux faits d'armes, c'est trois fois dans les six premiers à l'UTMB.
D'accord.
J'ai fait quatrième, cinquième et sixième, exactement.
Alors, j'avais dressé une liste de questions plus ou moins intéressantes. Mais avant que j'oublie, là, tu me dis, tu as la petite cinquantaine. Moi, j'en suis pas loin, hein, donc je me moque, mais en réalité, je suis surtout triste d'y arriver aussi. Et là, tu essayes de t'y remettre un petit peu. Qu'est-ce que tu constates comme changement? Par exemple, par rapport à, entre guillemets, même si tu dis ta carrière avec un petit C, à la période de ta grandeur, ou à la fin de ta carrière, ou à la fin de ta période compétitive, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme limite? Qu'est-ce que tu ressens comme difficulté que tu constates maintenant, que tu ne constatais pas avant, qui sont dues essentiellement, probablement au manque d'entraînement, mais aussi à l'âge? Et donc, comment justement le... Qu'est-ce que tu constates avec le retour de l'entraînement? Qu'est-ce qui est plus dur qu'avant?
Alors, c'est pas un retour à l'entraînement quand je dis j'essaie de m'y remettre, c'est pas j'ai jamais vraiment coupé, contrairement à ce que je craignais en fait. Moi, j'ai fait aussi de la compétition parce que j'avais peur d'arrêter en fait d'être actif. Je savais très bien de par mon métier que je suis assez bien placé pour connaître l'importance de l'activité physique, et j'avais peur que d'arrêter la compétition me fasse arrêter toute activité physique. Et en fait, j'ai été moins bête quand même que je le pensais. J'ai quand même réussi toujours à garder, y compris quand je suis parti au Canada, à garder cette activité sport santé. Donc, et là, j'essaye pas de me remettre à la compétition. Je dis pas que ça viendra pas un jour. Il faut jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais on sait jamais. Donc, on peut pas dire que je m'entraîne vraiment. Je pratique pour rester en forme. Et donc, il se trouve que j'ai un emploi du temps assez chargé, comme beaucoup de personnes, mais quand même, je fais partie des gens qui travaillent beaucoup. Et donc, quand j'arrive à faire 3 fois par semaine, je suis content. Mais en même temps, je suis pas persuadé de pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, si je faisais effectivement du fitness en salle ou du vélo, peut-être que je pourrais faire beaucoup plus d'heures que ça. Mais le plus simple, c'est quand même de courir. Et je constate que si j'essaye de courir 3 fois dans la semaine, assez vite, j'ai des douleurs. Là, pour le coup, c'est l'âge plus que le manque d'entraînement qui font que, tu sais, les fameuses blessures du sportif, notamment au mollet, quand tu essayes de courir trop longtemps à un certain âge, en tout cas pour moi, mais je crois que je suis pas le seul. C'est vraiment ça qui diffère, quoi. Avant, évidemment, je pouvais aller courir tous les jours 1 heure et ça passait sans problème. Maintenant, déjà au bout d'une heure, j'ai ma dose. Et puis si j'essaye d'y retourner le lendemain, je sais que s'il y a des chances, ça se passe mal. Donc je prévois de laisser au minimum un jour ou même 2 entre chaque sortie de course à pied. Si j'avais la chance de faire du vélo plus ou plus de temps de faire du vélo ou du ski de fond, ce serait différent, mais en course à pied, c'est comme ça en tout cas. Donc ça, c'est une première différence. Et la deuxième, c'est le poids aussi. Le fait de... Alors, j'essaye de pas prendre trop de poids, mais c'est quand même compliqué avec l'âge. Le fait de m'entraîner moins, d'avoir une vie peut-être un petit peu moins saine aussi qu'avant, même si j'essaie de faire des efforts, hein, d'accorder ma pratique avec ce que je prône, mais bon, voilà, j'ai pas du tout évidemment une vie d'asset, j'en ai jamais une d'ailleurs, mais voilà, donc avec quelques kilos en plus, la course à pied, ça pardonne pas, et voilà, donc ça, c'est aussi une différence, et je pense qu'avec l'âge, c'est plus compliqué aussi de rester un poids de forme, hein, ou un poids ne pas être en surpoids. Voilà, bon, je suis encore pas obèse, hein, j'ai encore un peu de marge, mais effectivement, tu sens tout de suite quand t'as 5 kilos en trop, tu en course à pied, hein, toi t'as l'air affûté comme un guerrier, mais je peux te dire qu'on le sent vite. Il suffit de mettre un sac à dos avec 5 kilos dedans et puis vous allez vite vous en rendre compte. Et voilà,
merci,
donc ça, c'est la deuxième,
merci pour ce compliment
la deuxième différence importante. Et on récupère avec l'âge, on récupère moins bien, pas seulement musculairement, on récupère moins bien, donc voilà, essentiellement, ça va.
Pourquoi, alors, entre guillemets, tu l'as dit un petit peu, donc c'est une fausse question, pourquoi t'acharner sur la course à pied alors que tu pourrais non pas faire seulement du fitness, mais aussi du vélo d'intérieur? Je pense à Zwift notamment et toutes les plateformes d'entraînement indoor qui ont fleuri depuis quelques années, qui n'existaient pas avant.
Parce que je m'emmerde sur un vélo d'intérieur. J'en ai eu fait pas mal quand j'étais. Je dis pas que c'est pas utile et qu'on peut caser ça dans un entraînement, notamment pour faire de l'entraînement croisé, c'est vrai que c'est bien. Il y a plein de gens qui adorent ça, qui adorent aller en salle, et tant mieux pour eux. Si ça leur convient, si ça leur plaît, surtout il faut pas se priver. Moi, je trouve ça un peu chiant. Alors, peut-être parce que j'en ai fait pas mal et que j'en ai marre, mais non, bon, quand je vais courir, c'est pas seulement pour courir, c'est aussi pour être dehors. Donc en général, j'y vais surtout pas avec des écouteurs, et j'écoute la nature, j'écoute mes pas, qui sont un peu plus lourds qu'avant, mais ça fait rien, je les écoute quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas plus de vélo intérieur. Alors il m'arrive d'en faire encore un peu puisqu'on a une salle là où j'ai la chance de travailler dans un bâtiment de recherche où on a une belle salle d'entraînement qu'on peut utiliser, qui est normalement pour les patients, mais qu'on a le droit d'utiliser bien sûr. Et donc il m'arrive d'en faire, mais non, tous les jours, ça je pourrais pas, c'est pour, au-dessus de mes forces.
Bon, alors deuxième question avant d'oublier, parfois dans ce podcast j'ai un petit côté les grosses têtes. Et là, il s'avère que j'ai une question de Audemarie F, que tu connais en réalité, parce que tu l'as conseillée pour son post-doctorat, je crois, au Canada ou un truc comme ça. Et elle est à quelques semaines de décaniller au Canada et je l'accompagne dans sa préparation longue
distance. Ah oui, elle m'a dit qu'elle s'était mise au vélo. Bon.
Et donc, je l'accompagne donc, dans ses périples. Et
ça ne sera pas terrible au Canada pour faire du vélo, je lui ai dit déjà.
Ah, mais on en a déjà parlé. Au contraire, ça va être très, très, très bien. Je ne suis pas entièrement... Ah, je ne connais pas, donc. Mais en tout cas, de ce que j'en ai étudié, il y a plusieurs options qui s'offrent à elle et ça va lui offrir, je pense, une très belle marge de progression. Et en plus, le terrain au printemps, quand le terrain va s'ouvrir au printemps, ça va être... ça ne devrait pas être trop, trop mal pour Audemarie. Mais c'est vrai que l'hiver va être un petit peu longué à passer quand même. Mais il y a des options, notamment...
Non, mais je parlais bien du vélo sur la route. Hein. C'est,
ah oui.
C'est pas terrible hein, pour faire du vélo là-bas. Mais bon,
c'est pas grave, elle ne va pas sur la route. Elle fait du chemin. Donc, c'est une guerrière, tout-terrain, Audemarie. Donc, ce n'est pas un problème. Hein.
Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle oublie sa bombe à ours.
Ouais, ça, je lui ai dit déjà. Je lui ai raconté. Les loups aussi. Ça, on en a parlé déjà. Alors, du coup, question de Audemarie F. À quoi sert le bâillement ?
À quoi sert le bâillement ?
Ouais. Qu'on parlait de fatigue au bout d'un moment. Et puis, je lui dis, tu vois, moi, sur un truc, par exemple, au bout de 8-10 heures, c'est un réflexe idiot, mais j'étouffe mes bâillements. Et elle me dit, le bâillement, c'est... Puis elle a pas réussi à finir sa phrase. Et elle me dit, tu demanderas à Guillaume, voilà. Non, alors, le bâillement, ça sert à quoi ?
Tu me poses une colle.
Dans le processus de la fatigue, le bâillement, il sert à quoi ?
Il sert à pas grand-chose, j'en sais rien. Non, je sais pas, tu me poses une colle. On m'a jamais posé cette question, je me la suis jamais posée, donc je peux pas répondre à cette question.
voilà.
Je crois pas que ça soit une question essentielle, mais c'en est une, et j'ai pas la réponse.
Je me pose la question, parce que s'il apparaît, c'est bien qu'il ait une fonction. S'il est là, c'est bien qu'il sert à quelque chose.
Ouais, il apparaît, oui, c'est sûr.
Parce que quand on n'est pas fatigué, on baille pas, donc...
Si tu vois quelqu'un bailler, même si t'es pas fatigué, tu vas bailler quand même. C'est sûr. Mais
ça c'est autre chose.
Effectivement, tu peux aussi. Ouais, c'est autre chose. Mais le bâillement, alors à quoi ça pourrait servir non, j'ai aucune idée. Est-ce que même
Est-ce que c'est un signal ? Parce qu'on va en parler tout à l'heure quand on va parler de la fatigue centrale. Est-ce que ça peut être juste un signal qui te dit, hey mec, regarde ou meuf, tu commences à être un peu cuit, fais attention. Est-ce que c'est pas juste un petit signe avant-coureur ? Une petite tape amicale sur l'épaule.
J'en sais rien. Je crois qu'on peut être fatigué. Moi, j'ai pas l'impression, par exemple, de bailler très souvent, en étant même très fatigué. Ça m'arrive, pour ainsi dire, jamais. Donc, je suis même pas sûr que ça soit le cas chez tout le monde. Donc, non, franchement, la dernière fois que j'ai baillé, je m'en souviens pas. Donc,
t'inquiète, ça va venir.
Je suis pas sûr. Ouais, le fait d'en parler maintenant, j'ai envie
un moment
de bailler,
dans l'épisode, tu vas bailler, je te promets. Quand je vais commencer à raconter ma vie, je vais te faire bailler, tu vas voir.
Ah non, parce que j'aurais raccroché depuis longtemps.
Putain, j'en reviens pas, quoi. Ça fait 20 ans que je lis Sport et Vie. Et si on m'avait dit un jour, tu vas voir, un jour, tu vas clouer le bec à Guillaume Millet, je l'aurais pas cru, je vais te dire.
Ça. Eh ben, c'est fait. Ça, c'est
celle-là,
fait.
Je vais me l'encadrer.
Tu as commencé par dire que j'étais vieux, maintenant tu me poses une colle. ça commence mal ce podcast.
Mais tes diplômes, tu les as vraiment ou en fait tu es une sorte d'usurpateur ? Parce que je commence à me poser des questions là.
C'est vrai que mon diplôme en bâillement, celui-là, je l'ai acheté, je reconnais.
Ouais, très bien. Mais je connais des gens comme ça, notamment un médecin en région parisienne qui passe pour un médecin légiste. Il m'écoute, hein, donc. Et il sait très bien, on le sait tous les deux, qu'il a acheté son diplôme et il se reconnaîtra, il m'écoute. Bon alors, pour revenir à un truc beaucoup plus sérieux, vraiment, on va revenir sur la fatigue. Tu disais dans l'épisode 92 de Let's Trail, podcast, excellent d'ailleurs,
que les lipides...
Ah bah attends, je fouille, hein, là, attention, hein, t'as affaire quand même. Hein. Que les limites de la fatigue sont mal connues et que, d'une manière ultime, l'état de fatigue absolue, ultime, c'est la mort. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même toujours moyen d'avancer, même pas vite ? Tant qu'on n'est pas mort, est-ce qu'on peut continuer ?
Oui, Oui, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer toujours à mettre de plus. Non, là, ce que je voulais dire par là, c'était évidemment un peu provocateur. Ce que je voulais dire par là, c'était, j'imagine qu'on devait parler du fresh model et puis effectivement des limites de la performance. Donc, je voulais attirer l'attention de l'auditeur sur le rôle du cerveau et du fait qu'effectivement, c'était toujours une décision volontaire que de dire bon maintenant je ralentis ou je peux pas aller plus loin et qu'en réalité on peut toujours aller plus loin et notamment j'aime à rappeler que si on se dit non là vraiment je t'assure je suis au bout du bout je peux pas faire un pas de plus je suis au bout de je suis j'atteins mes limites et que un danger mortel survient je serais prêt à parier que les limites elles vont être poussées pour pouvoir échapper, en tout cas tenter d'échapper à ce danger-là. Donc c'est j'imagine à ça que je faisais référence dans ce podcast. Voilà, donc c'est vraiment des limites, c'est là où on parle effectivement des limites centrales de la performance et de la fatigue, du coup. Maintenant, à un moment donné, quand ce qui va te limiter, ça va être alors on part du principe que tu peux manger régulièrement, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, ça va être le sommeil. À un moment donné, tu vas avoir une telle pression du sommeil que tu vas être obligé de t'arrêter. Et ça, moi, je l'ai vécu une fois et une seule. C'était sur le Thor. On a parlé du Thor des géants où j'étais, bon, j'étais encore loin de l'arrivée, mais pas tant que ça. Donc, c'était évidemment vraiment compliqué. Ça aurait été compliqué de pas m'arrêter, mais j'aurais aimé peut-être faire encore un peu plus pour aller sur un endroit un peu plus sympa pour dormir, mais j'étais à un moment où je marchais, je pouvais vraiment plus garder les yeux ouverts. Je titubais sur le chemin. Enfin, il y a peu de, je pense qu'il y a peu de personnes, y compris ceux qui font de l'ultra, parce que moi, ça m'a pris quand même pas mal d'années pour en arriver là et de monter sur ce formateur pour expérimenter ça. Quand tu fais un UTMB, alors peut-être que ceux qui sont plutôt en queue de peloton, ça leur arrive, mais en tout cas, même 2 jours, tu vois, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Faut vraiment être 3 jours en ayant très peu dormi pour ressentir cette pression du sommeil à ce point-là. Et je pense que c'est ça après qui va aussi te. Mais encore une fois, je me suis couché 5 minutes parce que il y avait quelqu'un qui arrivait et j'étais sur le podium et je voulais pas en descendre. Donc j'ai dormi que 5 minutes et ça m'a déjà fait un bien fou. Ça aussi, c'est un mystère. Donc si tu me demandes pourquoi on arrive à récupérer si vite, ça c'est une autre colle. Enfin là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais c'est vraiment impressionnant de se dire qu'en faisant un sommeil flash comme ça, on peut se récupérer aussi rapidement. Mais en tout cas, même si en 5 minutes j'ai pu repartir vraiment dans un état tout autre. Si j'avais pas fait ces 5 petites minutes, ouais, ça aurait, j'aurais pu avancer encore, encore, encore. Jusqu'à quel moment, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais proche du bout pour le coup.
Comme tu dis, c'est quand même assez impressionnant que de temps en temps, on va dormir, 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 et on a l'impression d'être toujours au bout du rouleau. Et sur une épreuve où tu es visiblement dans un état d'épuisement, fortement avancé, tu dors 5 minutes. J'ai vu un récap de course d'un ultra ce week-end au Portugal. Clément, donc le vainqueur, a fait une première sieste de 1 quart d'heure. Toi, tu as dormi 5 minutes. Et vraiment, toi ou toute la communauté scientifique n'avait pas la moindre idée de ce phénomène?
Ouais,
Ou
de
quelques intuitions? T'as
pourquoi
pas
on
des
peut
petites pistes? Comment
pourquoi on...
on récupère aussi vite? Alors, est-ce que tu récupères? Qu'est-ce que tu récupères? Est-ce que tu récupères ce qu'il te faut pour atteindre la ligne et à ce moment-là, ça s'arrête vraiment? Tu coupes vraiment le courant? Ou est-ce que tu récupères quoi en fait dans ces 5 minutes ou dans ce quart d'heure?
En fait, la pression du sommeil, elle est liée à, j'imagine, plusieurs choses, mais en tout cas, une chose en particulier, c'est l'accumulation cérébrale d'un métabolite. Tu parlais de métabolite tout à l'heure, qui s'appelle l'adénosine. Donc, c'est ça qui fait que la pression du sommeil, elle dépend de 2 choses, en fait. Elle dépend de, justement, depuis combien de temps tu es éveillé. Et ça va être une progression plus ou moins linéaire et qui va dépendre justement de cette accumulation d'adénosine. Et puis après, elle dépend des cycles nictaméraux. C'était pas une insulte, hein. C'était des cycles de
Ne
24 heures où
t'inquiète
t'as
pas,
deux.
on m'a déjà fait cette blague. Ne t'inquiète
Ça
pas, c'est pour ça que j'ai pas réagi.
va. C'est donc avec une pression du sommeil qui varie en fonction des heures de la journée, avec un petit pic en début d'après-midi. Et puis après, évidemment, dans la nuit, qui avec un énorme pic vers 4 heures du matin, quoi, 4-5 heures du matin. Et donc, si tu es. Si tu es éveillé depuis longtemps, mais que tu es le matin, ça va pas trop mal. Et puis après, ça va devenir de plus en plus dur. Puis à un moment donné, évolution du nique ta mère ou pas, nique tes mères ou pas, faudrait que tu t'arrêtes, quoi. Et donc, cette pression du sommeil, elle dépend en grande partie de cette accumulation d'adénosine. Donc, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi quand on dort si peu, c'est ça ma question, pourquoi en dormant 5 minutes, on arrive à récupérer autant? Parce qu'on pourrait se dire, en 5 minutes, je repars, mais je suis dans un état encore très fatigué, avec une pression du sommeil énorme, alors que non. En fait, alors ça dure pas, hein, parce que derrière, évidemment, tu vas avoir besoin de dormir. C'était pas reparti pour 2 jours, mais quand même, tu repars pour, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue, et je crois que je suis pas le seul à l'avoir eue, tu repars pour plusieurs heures en ayant dormi que 5 minutes. Et ça, franchement, c'est quand même un mystère. Alors, j'ai discuté avec un collègue, là, un neurochirurgien, là, qui me parlait un peu. Alors, j'ai pas tout compris, et je crois que c'est pas non plus très connu, y compris par eux, de système lymphatique. Qui est voilà des choses qui sont je crois qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus justement parce que c'est alors je suis pas un spécialiste ni du sommeil ni du cerveau proprement dit mais ce sont des choses pour le coup autant le bâillement je pense qu'on peut trouver assez facilement la réponse autant là c'est une question qui est beaucoup plus complexe et moins bien connue. Il y a sûrement des experts qui seraient capables d'en dire plus que ce que je viens de te dire là mais en tout cas c'est un sujet de recherche je crois actuel.
À l'instant, tu as dit donc il y a une accumulation, donc on a des cycles, les cycles nique ta mère,
Circadien, on va dire.
circadien, voilà, c'est plus classe quand même, en début d'après-midi et dans la nuit. Est-ce que ça explique est-ce que bon, déjà, ça explique le petit contre-coup du début d'après-midi, comme je suis en train de le vivre actuellement, mais également celui du début de soirée où finalement la force de l'habitude fait que vers 22h, 23h, minuit, on va avoir envie de dormir et que l'on va avoir ce petit coup
Ouais,
de
alors là,
remous auquel on va résister.
c'est plutôt lié à la production de mélatonine, je pense,
Ouais.
sur le début de soirée. Et puis après, effectivement, le fait que, ben voilà, il y a la nuit tombe, etc. Donc après, tu as des régulations aussi, plus, on va dire, sociétales qu'autre chose. Mais non, la vraie pression, parce que ça, pour le coup, effectivement, ça commence en début de soirée à monter, mais le pic, il est vraiment à 4-5 heures du matin. Et si tu passes ce pic-là, après, derrière, ça. Pourtant, tu continues à accumuler de l'adénosine, mais tu reviens, c'est de plus en plus facile, quoi. Donc, c'est là où il faut être en ultra particulièrement attentif. Donc, déjà, si on peut dormir à ce moment, si on est dans des bonnes conditions pour dormir, bah, c'est plutôt là qu'il faut le faire. Mais si on n'y arrive pas ou si on n'est pas dans les bonnes conditions, bah, il faut se dire que ça va aller un petit peu mieux, quand le jour va apparaître et quand on va passer les 6-7 heures du matin.
Donc, ça signifie que ce n'est pas une fatalité et que...
Ah, si, c'est une fatalité parce que à un moment donné, il va bien falloir dormir. Donc, ça, c'est une
Oui, mais
fatalité.
je veux dire, en étant soit comme tu l'as dit, dans les bonnes conditions, ou alors en étant un petit peu patient, ou en ayant déjà expérimenté cela, on arrive à vivre avec, entre guillemets, et à passer ce moment un peu difficile.
Oui, alors après, on est moins vigilant, on est donc ce que je voulais dire aussi, et puis je me suis arrêté au milieu de ma phrase, c'est qu'il faut
Oui.
aussi être attentif aux blessures, aux chutes, etc. Donc,
Qui, elles, peuvent amener la mort par épuisement.
pas par épuisement, mais par
Par
chute.
blessure grave.
Par chute, et,
Ouais.
en, et là, pour le coup, c'est moyennement drôle, puisque c'est arrivé, comme tu le sais, à la TDS,
Ouais.
au Grand Raid, il y a plusieurs années en arrière, etc. Donc,
Ça arrive sur, bah, c'est arrivé sur une course en Italie, c'est arrivé l'été
Ouais.
dernier, sur la
Alors,
North Cape.
c'est pas forcément toujours en lien avec le sommeil, mais bon, c'est quand même souvent la nuit. Il y a pas que le manque de vigilance, mais c'est que ça en fait clairement partie. Surtout si en plus t'es la fatigue de l'épreuve, c'est pas qu'une histoire de sommeil, c'est la fatigue de l'épreuve se cumule avec le manque de sommeil. Et pour le coup, on n'est plus très lucide, effectivement.
Ouais. Je reprends une question que j'avais mise pour la fin. En fait, j'ai cherché un tout petit peu et quand on parle de fatigue centrale, on découvre que c'est plutôt un signal. Et là, dans ce que tu viens de me dire, eh ben, je me dis qu'il est plutôt le moment de ressortir cette observation. On entend souvent dire, ou on lit parfois, que le cerveau humain n'utilise que 10 à 15% de ses capacités, mythe ou réalité?
Je sais pas d'où tu tiens ça.
Bah, en fait, j'ai cherché parce que du coup, on entend parfois dire ça. Et attends, donne-moi un instant, mon chien veut sortir.
C'est pas vrai quand même. Tac.
Bah, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est pas forcément d'avoir un chiffre précis et aussi tranché. C'est aussi de se dire que peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, on décide et que l'action de continuer ou pas est avant tout une question de... Ouais, c'est un choix et une question de volonté, ce qui pourrait supposer qu'on a des ressources entre guillemets un petit peu cachées ou inespérées, comme en cas de grand danger, quand on dit « non, je peux plus là ».
D'accord, mais on n'est pas à 85% de ces réelles limites, je pense. La preuve, c'est que si tu prends un peu les, il y a des, par exemple, en fait, il y a pas 50 000 trucs que tu peux utiliser pour manipuler un peu ces limites. C'est un peu la préparation mentale. Donc, on sait que ça fonctionne, mais enfin, ça va pas te faire gagner 85% de tes performances. Même si en faisant de préparation mentale, ça veut pas dire que tu vas optimiser 100% de tes capacités mentales, mais en tout cas, tu peux gagner, mais petit peu. Et puis après, il y a le dopage. Le dopage avec les excitants du système nerveux, ce genre de choses. Et là aussi, il y a des études montrent que ça fonctionne et le terrain surtout montre que ça fonctionne avant que ça soit qu'il y ait des contrôles plus stricts. Mais dans les années 70, etc., avec les amphètes, etc., il y avait beaucoup de... C'était beaucoup utilisé, comme tu le sais. Mais ça fonctionne pas non plus. On peut pas dire qu'on soit très très loin de nos vraies limites. Donc c'est pour ça ce chiffre de 10 à 15%.
Oui,
je sais pas trop ce que tu voulais dire par là. Mais en tout cas, on est en deçà. Et ces moyens-là, licites ou illicites, nous permettent effectivement de gagner un peu.
Alors, est-ce qu'on peut parler un instant du gain par la préparation mentale ? On va gagner sur quel terrain en fait ? On va gagner sur la confiance, sur
la
conviction. On va gagner sur quoi avec une bonne préparation mentale ?
Tu peux gagner sur le relâchement. Donc pour un même effort, tu vas avoir en travaillant sur le relâchement, sur la composante un peu affective, ce genre de choses. Donc diminuer ton stress, diminuer l'anxiété. Donc là, tu peux déjà gagner en termes de, on va appeler ça, on va ranger ça sous la bannière charge mentale, si on veut. À l'inverse, tu peux gagner en motivation. Donc dans le modèle de la chasse d'eau, il y a ce que j'appelle la réserve de sécurité qui fait que justement on n'est pas à ses vraies limites et qu'on les atteint jamais, sinon c'est la mort dont tu parlais au début. Et avec cette préparation mentale et cette réserve de sécurité, elle dépend bien sûr de la motivation. Et avec la préparation mentale, tu vas pouvoir réduire un peu cette réserve de sécurité, piocher un peu plus loin. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont utilisées. Donc par exemple, tu as des études qui montrent que quand on s'habitue, quand on essaie de développer sa motivation en essayant enfin c'est en lien et indirectement, en essayant de se convaincre que par exemple l'effort à la chaleur c'est pas nuisible et qu'on peut y arriver, etc. Donc on arrive effectivement, alors que physiologiquement on est exactement le même, à être plus performant dans cette situation particulière auquel on n'est pas habitué, qui est courir en situation de forte chaleur. Donc voilà, il y a ça, il y a qu'est-ce qu'il y a encore, la préparation mentale peut te permettre d'être plus, les techniques de relâchement, etc., de mieux aborder, de mieux dormir par exemple avant une course. Donc ça, évidemment, il va y avoir un impact direct également sur la performance. Il y a plein de choses, j'en oublie des tonnes, mais non, c'est vraiment, moi je suis un physiologiste, je suis pas un spécialiste de prépa mentale, mais c'est pour ça que mais je pense que c'est tellement important que dans le livre que je suis en train d'écrire, là, la deuxième édition d'Ultra Trail, évidemment, j'ai souhaité que François Castel, qui avait écrit la partie prépa mentale de la première édition, soit de nouveau associé, et il a accepté. Donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je termine. Essentiel, oui, et malheureusement... malheureusement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il y a assez peu de monde, c'est vrai dans le sport en général et peut-être encore plus dans les sports d'endurance, il y a assez peu de monde qui consacre réellement du temps et qui prend ce problème au sérieux. Et je pense que c'est une erreur. effectivement, il y a à gagner. C'est juste moins quantifiable que les aspects physio et prépa physique.
Est-ce que tout ce que tu viens de dire, relâchement, décontraction, aborder un événement, la vision que l'on a d'un effort ou la vision que l'on a d'un événement ou la motivation que l'on apporte à cet événement, est-ce que c'est pas, toi tu le mets sous la bannière charge mentale et etc., est-ce qu'on peut pas aussi le mettre simplement sous la bannière expérience et préparation et d'optimiser sa préparation aussi en ce sens-là pour apprendre à mieux gérer les à côté de la course ? Et pas juste se limiter à des chiffres, comme on le voit. Tout à l'heure, je te parlais de Zwift, de parler de WAD, de FTP, de machin, mais au contraire, d'aborder tout ça un petit peu plus dans une globalité. En plus, on parle de sport nature, on parle d'un truc global. Est-ce que ça ne serait pas aussi quelque chose à encadrer, où on va englober tout ça finalement ?
Oui, après, la finalité, c'est d'être le plus performant. Enfin, ça peut être d'être le plus performant possible, c'est une des finalités possibles du sport, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui font du sport pour la performance. Et évidemment, tout ça contribue à un seul même but qui est de se préparer globalement, le corps et l'esprit pour être le plus performant possible. Mais si ta remarque c'était dans le sens, je suis pas sûr si je l'interprète bien, mais si ta remarque c'était de dire, c'est un peu c'est du bon sens, que ce qu'il y a vraiment besoin de s'entraîner, de se préparer mentalement spécifiquement, je pense que oui. De la même façon qu'on peut se dire, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un entraîneur pour décider mes séances? Je peux le faire tout seul. Je regarde un peu ce que font les autres, etc. Finalement, après, pas mental, pareil, j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller. Je vois pas tellement pourquoi ce serait plus vrai pour la préparation mentale que pour la préparation physique. Donc, il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent te permettre avec des techniques, comme il existe des tas de techniques d'ancrage, de tout ce que tu veux pour d'imagerie mentale, etc., de relaxation, qui peuvent te permettre de progresser sur ce plan-là. Et alors, il se trouve qu'il y en a assez peu des gens qui sont formés, mais en tout cas, ils ont un vrai rôle à jouer, ces gens-là, ça c'est certain. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas si c'était ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse.
Non, mais je suis en train de me rendre compte que je joue de mieux en mieux mon rôle d'avocat du diable.
Non, mais je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. Si c'est,
je voulais rien dire en fait.
Ah bon, si tu voulais rien dire, c'est pas que je voulais rien dire. Ça, t'as la réponse. Alors.
Mais en tout cas, j'ai la réponse que j'attendais, parce que ça serait un petit peu trop simple. Mais en tout cas, la réponse me convient entièrement. Ma petite remarque, ça pourrait être juste que est-ce qu'il faut vraiment faire appel Est-ce qu'il faut vraiment se prendre la tête avec une histoire de préparation mentale, dans la mesure où souvent le stress et tout ce qui va être sommeil, stress, charge mentale, motivation, représentation de l'épreuve sont aussi dus à l'image qu'on a envie de renvoyer. On croise des gens qui font des épreuves pour l'image que ça va représenter d'eux au travail ou avec leurs amis. Le stress généré par le terrain, par la difficulté, par les conditions climatiques, par le kilométrage, par le dénivelé, est souvent dû aussi à un manque de préparation. Et quand on a vécu ces trucs-là, vu qu'on l'a vécu, on sait à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas besoin de stresser pour quelque chose que l'on connaît. C'était plutôt ça, en fait, le sens de ma remarque.
Oui, après, il y a plein de choses qu'on peut faire, effectivement, qui peuvent paraître de bon sens et que plein de gens ne font pas malgré tout. Donc tu as parlé par exemple du sommeil, ça c'est un sujet que on en a déjà un petit peu parlé, mais on en a parlé pendant la course, là c'est en préparation, en disant j'arrive, je suis déjà fatigué. Donc on peut se dire ça c'est du bon sens, quoi, de se dire il faut dormir, bien dormir avant, etc. La réalité, c'est que les études montrent que c'est pas le cas de tout le monde. Alors, ça dépend des études, mais certaines études montrent que tu as uniquement 40% des gens qui se forcent à dormir plus avant une course. Alors, pour moi, ça devrait être une évidence. De la même façon, qui cherchent à minimiser réellement l'anxiété. Moi, je crois que ça se prépare. C'est-à-dire que quand on fait si c'est un ultra qu'on fait pour... Après, tu as parlé des raisons pour lesquelles on fait un ultra, ça c'est encore un autre débat, une autre question dont on pourra parler après si tu veux, mais c'est encore une autre question. En tout cas, si on fait un ultra comme on devrait le faire, c'est-à-dire on n'en fait que deux par an, etc., ça veut dire qu'on les prépare vraiment. Et la préparation, elle commence pas sur la ligne de départ, elle commence bien en amont. Alors il y a évidemment toute la préparation d'entraînement dont tu as parlé, mais il y a aussi les jours d'avant. Et ça, c'est une période qui est absolument clé. Donc de bien dormir, et de quand on dit bien dormir, ça veut pas dire dormir normalement, ça veut dire accumuler du sommeil, faire une mettre du sommeil en réserve, ça, on sait que c'est possible. Ça veut dire minimiser le stress, minimiser la charge mentale aussi qu'on peut avoir. Parfois c'est impossible, mais parfois c'est possible. Il suffit de prévoir un peu son emploi du temps à l'avance, etc., de bien anticiper les choses. Et ça, ça a un impact sur la performance que peu de gens finalement, on le sait sans le savoir. Si, et on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, on se doute que c'est pas terrible, mais finalement, bon, bah, si ça arrive, ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas. Non, c'est vraiment majeur. Mmh. Et il y a des études qui montrent que, par exemple, la fatigue mentale qu'on peut avoir, elle a aussi comme conséquence l'accumulation d'adénosine dont je te parlais tout à l'heure, liée à la privation de sommeil. Et c'est pour ça que je reviens toujours à mon modèle de la chasse d'eau. C'est vraiment partir avec la chasse d'eau la plus, avec la cuve la plus, avec le plus bas niveau d'eau possible. Et si tu dors pas suffisamment, ou si t'es déjà anxieux, ou si t'as eu des problèmes la semaine d'avant, ben ta cuve elle est déjà un petit peu remplie avant de partir, et donc t'as déjà perdu avant même d'avoir fait la première foulée. Donc quand tu parlais d'approche, je sais plus comment t'as dit, intégrative, etc., ça, moi ça me fait penser à ça. Et c'est vraiment, et c'est pour ça. Alors effectivement, on n'a pas besoin d'un préparateur mental, il suffit d'acheter un excellent livre qui va sortir bientôt, mais quand même, si en plus tu te renseignes de toi-même, mais qu'en plus tu as des gens qui peuvent t'aider, alors tu as peut-être des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui sont naturellement relax, etc. Par exemple, Camille Brouillas ou François Den, apparemment, ce sont des gens qui sont assez zen, etc., et qui n'ont pas forcément besoin, au moins pour cet aspect-là, d'un préparateur mental. Je suis sûr qu'ils pourraient bénéficier de la préparation mentale sur d'autres aspects, mais au moins sur cet aspect-là. Donc tant mieux pour eux, mais pour ceux qui ont plus de difficultés, je suis persuadé que de se faire assister, ça peut être utile. Maintenant, ça a un coût, etc. Donc après, c'est des choix ou des non-choix personnels.
Alors, si on définissait un petit peu ce qu'est la fatigue.
Ouais, si t'as 2 heures devant toi, on peut parler de ça.
Alors moi, j'ai tout l'après-midi. Hein. Ma fille est partie au karaté, donc tranquille.
On parle de la fatigue du sportif ou de la fatigue
Alors on va se limiter à la fatigue du sportif quand même, je pense. Oui. C'est quand même le cadre de ce podcast. Ouais.
Mais donc, quand même, on va parler que de ça, mais je voudrais juste te dire en préambule que cette fatigue-là, finalement, elle est pas. Je dis pas qu'elle est pas importante. On connaît l'importance que peut avoir le sport dans la vie des gens, ou en tout cas de ceux qui écoutent ce podcast, et c'est très bien, mais c'est pas la fatigue la plus importante. La fatigue la plus importante, c'est celle des gens qui ont le cancer ou qui ont un syndrome de fatigue chronique ou qui ont un Covid long. Ça c'est plus grave. Bref, je voulais juste le dire, mais je ferme la parenthèse.
Donc, il fallait le dire quand même.
Ouais, je pense que c'est important. Ça permet de relativiser aussi, y compris quand on est sur une course, de pouvoir se dire, ben, j'ai quand même vraiment de la chance d'être au départ de l'UTMB ou d'une autre course, et peut-être en profiter encore plus que ce qu'on pourrait le faire naturellement.
Alors, discrètement, je suis quand même entièrement d'accord, parce que ça a été un long débat parfois avec mon père, où on parlait de souffrance à vélo. Et pourtant, lui devrait bien être placé pour le savoir, mais j'ai jamais été d'accord avec cette idée qu'à vélo, on souffre, parce qu'au bout du compte, on souffre. Certes, ça fait mal, mais bon, à un moment donné, ça finit par s'arrêter. On est là et on a mal éventuellement parce qu'on l'a voulu, et justement, on l'a voulu. Donc, comparé à une maladie chronique, à un truc grave ou une fracture violente, enfin n'importe quoi qui soit pas de notre fait, je suis pas complètement convaincu qu'on puisse réellement parler de souffrance dans le sport.
Alors moi je pense qu'on peut parler de souffrance, mais pas de douleur. Ouais. Donc, voilà, on pourrait jouer sur les mots comme ça.
On peut jouer sur les mots, et c'est pour ça qu'on a une langue aussi riche, faite de subtilité. On a le droit de jouer sur les mots.
Voilà. Donc voilà, on est d'accord. Voilà. On sera d'accord sur au moins une chose. C'est déjà pas mal.
C'est déjà ça.
Alors. Pour revenir à ta question sur la fatigue, donc du coup du sportif,
oui.
Elle se définit. On peut la définir, en tout cas nous c'est comme ça, physiologiste de l'exercice qu'on la définit, comme une baisse des capacités fonctionnelles de l'individu et ou une élévation de la perception de l'effort, dont on a déjà un petit peu parlé indirectement tout à l'heure. Par exemple, avec l'histoire d'accumulation d'adénosine, c'est que ça soit lié à une fatigue mentale ou une privation de sommeil, etc. En fait, la conséquence directe sur la performance, on l'a supputé, mais on l'a pas dit directement. En fait, c'est ça, c'est via ce facteur-là qui est la perception de l'effort. Puisqu'on s'arrête toujours à un niveau de perception de l'effort qu'on juge maximum, eh ben, si on arrive à le minimiser d'une façon ou d'une autre, donc en dormant suffisamment, en n'ayant pas de fatigue mentale, en ayant un relâchement par la préparation mentale, enfin tout ce dont on a parlé, plus évidemment d'autres aspects dont on n'a pas encore parlé, que sont la nutrition et puis le plus important quand même l'entraînement, la préparation physique, ça reste quand même la base, hein, faut pas l'oublier. On a parlé de l'environnement qui est super important, mais il faut quand même pas oublier quand même les qualités physiques et les données physiologiques qui restent quand même le plus important, on peut le dire. C'est une autre façon de définir la fatigue, c'est ça. C'est pour un même exercice, je perçois l'exercice comme plus difficile, donc je suis fatigué. Et donc, ça me coûte plus de le faire cet exercice. Ça pourrait être une troisième partie de la définition. Alors, ça me coûte plus déjà de quelque part de charge mentale, attentionnelle. Ça, c'est en lien avec la perception de l'effort, mais ça me coûte même plus en termes d'énergie. J'ai ce qu'on appelle une dégradation de mon coût énergétique de la course à pied. Mais on peut être fatigué sans avoir de dégradation du coût énergétique. Simplement, nous, la façon la plus simple de mesurer la fatigue, ou une partie de la fatigue, mais c'est la force, par exemple. Je suis moins fort, j'ai perdu de la force sur mes cuisses, mes quadriceps, c'est un signe de fatigue.
Quand je note le côté coût énergétique, parce que ça, on en parle de temps en temps, c'est un des trucs, parce qu'on en parle beaucoup en course à pied, en natation, enfin dans tous les sports un peu répétitifs, avec une dominante technique, mais étonnamment, on n'en parle jamais à vélo. Et pourtant, pédaler, ça s'apprend. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Donc, est-ce que tu pourrais résumer, parce que du coup, ça tourne autour de la fatigue centrale et la fatigue périphérique. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la fatigue centrale? On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Et tu l'as déjà légèrement évoqué.
Ouais. Non, justement, c'est un peu... C'est-à-dire que la fatigue centrale, ce que tu as appelé la fatigue centrale, ouais. C'est, on va pas dire que c'est pas la bonne définition, mais c'est pas en tout cas la fatigue centrale que nous on définit comme une baisse de la capacité à activer toutes ces, je vais dire un gros mot, les unités motrices ou les fibres musculaires. Ouais. Ça c'est plutôt comme ça, hein, mais après il suffit de s'entendre sur les définitions. Après tout, moi j'ai pas de religion, hein, mais la fatigue centrale c'est plutôt ça. Quand on parle de fatigue centrale, fatigue périphérique, la fatigue centrale c'est mon système nerveux n'est plus capable de recruter l'ensemble de mes fibres musculaires comme il peut le faire normalement si je suis en bonne santé au repos. Et la fatigue périphérique, pour le coup, c'est ce qui se passe dans le muscle. Le muscle est moins fort, indépendamment de ce que le système nerveux lui commande de faire.
Voilà. Alors peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais globalement on était d'accord là-dessus.
Non, parce que la façon dont tu as, en tout cas c'est ce que j'ai compris, dont tu l'as présenté, c'était plutôt justement sur plutôt en lien avec la perception de l'effort, etc. Alors que c'est vraiment nous pour la mesurer, c'est on demande au sujet de contracter au maximum le muscle et puis on envoie un choc électrique et on regarde si le choc électrique arrive à faire gagner de la force. Auquel cas ça veut dire que le cerveau en avait gardé sous le pied. Malgré toute la motivation, malgré l'envie des gens de faire le max, quand on fait un UTMB, à la fin d'un UTMB, quand on leur demande de forcer au maximum, qu'on choque électriquement, on arrive à leur faire gagner des fois 20 à 30% de force. Donc c'est quand même assez spectaculaire.
J'ai rien compris.
À
quel moment j'ai dit une connerie alors?
Bah, je me souviens plus exactement ce que tu as dit.
J'en ai tellement dit qu'on pourrait plus faire la liste.
J'irai pas jusqu'à dire que t'as dit une connerie, mais c'est, j'ai pas le sentiment que c'était de la fatigue centrale sous cette définition-là dont tu parlais. Mais peu importe. En tout cas, la fatigue centrale, ça peut être plein de choses. Effectivement, ça peut être ça. Je suis plus capable d'activer l'ensemble de mes fibres musculaires. Ça peut être la perception de l'effort. Ça peut être je suis moins coordonné. Ça peut être je suis plus capable de réfléchir comme avant. Tout ça, c'est de la fatigue centrale cérébrale.
Je me suis mal exprimé. Voilà.
Mais ce sont des choses différentes, quand même. Ouais. Différentes composantes de la fatigue centrale, si on veut.
Alors, pour résumer, la fatigue centrale, c'est simplement le câblage qui ne fonctionne plus comme avant. Et la fatigue périphérique, c'est quoi alors?
c'est le muscle qui est plus capable de répondre à la contraction comme avant.
Et ça, c'est dû à quoi?
Alors, ça dépend des sports. Ça dépend des.
Alors, disons sur un sport comme le vélo, par exemple. Par hasard, sur le vélo, ça pourrait correspondre à quoi?
Alors, sur le vélo, c'est pas qu'une histoire de course à pied vélo, c'est plus un peu ça, mais c'est surtout une histoire d'intensité, de durée. Donc, si tu me parles d'un sprint de 200 mètres ou tu me parles d'une étape du Tour de France, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Donc, tu parlais en introduction en disant j'ai les métabolites, etc. Oui, mais comme tu me dis, c'est le vélo versus la course à pied, je te réponds que c'est pas ça. Ça dépend de l'intensité.
J'avais même pas imaginé qu'on puisse parler de sprint aujourd'hui, tu vois.
Ah bah écoute, moi je sais pas de quoi tu parles exactement dans ton podcast. Donc,
quoi, tu t'es pas renseigné? Guillaume Millet, tu es un traître. Je le savais que tu étais un traître.
Bah, c'est-à-dire que je voulais le faire. Hein. Je,
oui, t'as manqué de temps en fait, parce que t'étais parti courir. T'es parti faire du spinning à la place, d'accord, je comprends.
Exactement. Donc si tu fais du spinning, justement, la fatigue est liée à quoi? Bah, pour le coup, à l'accumulation de métabolites dont tu parlais tout à l'heure, d'acidose, qui est quand même, même si c'était un peu remis en cause, une des causes de la fatigue, d'accumulation d'autres métabolites comme, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle le phosphate inorganique, et ça a des conséquences directes effectivement sur la contraction musculaire. Donc là, c'est vraiment au niveau du muscle que ça se passe. C'est-à-dire que l'accumulation de certains métabolites empêche le muscle de fonctionner comme il faut, ou empêche le muscle de fonctionner, c'est pas forcément au niveau des fibres ou ce qu'on appelle les myofilaments, qui sont vraiment les unités contractiles proprement dit. Tu m'arrêtes si je suis chiant. Mais ça peut être aussi sur le fait que les mécanismes où on a besoin de larguer du calcium dans le muscle, etc., sont gênés. Donc ça peut être le cas pour des raisons métaboliques. Et ça peut être le cas aussi, donc là on va être plutôt sur des efforts type étape du tour, etc., en lien avec la déplétion énergétique et la déplétion en glycogène, qui peut avoir un effet sur le cerveau, si on est en hypoglycémie, évidemment, c'est pas terrible, mais ça peut avoir des effets également sur le muscle, et notamment sur ça, qu'on appelle, s'il y a des gens qui veulent un peu les termes techniques, qu'on appelle le couplage excitation-contraction, c'est-à-dire que le fait de plus avoir de glycogène empêche le muscle de fonctionner parce qu'il y a moins de calcium qui est largué, etc. Donc là, il y a des études qui ont été faites en labo et puis même sur le terrain, qui sont des études assez sympa, où on va prendre des bouts de muscle pour regarder réellement ce qui se passe au sein du muscle. Donc voilà, c'est en gros, c'est ces deux aspects-là, si je schématise, accumulation de métabolites, au niveau où je parle de la fatigue musculaire, hein, proprement dit, et puis après, pour les efforts plus longs, ça va être plutôt en lien avec le glycogène, et puis en course à pied, on va avoir un autre aspect qui est important, qui va être, mais beaucoup moins en vélo évidemment, c'est les dommages musculaires qu'on peut mettre sous le registre fatigue ou pas. Mais comme tu m'as dit en début de discussion, je suis fatigué, j'ai des courbatures, j'imagine que tu le ranges dans la fatigue, donc ça me va, on peut dire comme ça.
Ouais, je range la sale gueule aussi avec, et la coiffure de travers, parce que vraiment...
Ça va avec, mais ça c'est plutôt de la fatigue centrale pour le coup.
Mais enfin, tu vois, on va revenir là-dessus un instant. Mais tu vois, quand on parle de tout à l'heure, tu parlais de charge mentale, des jours précédant l'épreuve, d'alléger un petit peu le programme ou de mieux anticiper certaines difficultés organisationnelles comme le déplacement, les ravitaux, l'hôtel, ce genre de trucs. On le voit aussi pas mal souvent sur des athlètes qui arrivent un petit peu cramés avant, qui arrivent déjà cramés sur une épreuve en fait. Soit avec trop de préparation intense et d'investissement, soit avec cette incapacité justement à se relâcher, à anticiper certains trucs. Et finalement, comme tu le disais très très bien, la course elle est déjà finie à la première foulée.
Ouais.
À force d'être cramé dans la tête, et quand il faut commencer à se battre, eh ben, il n'y a plus rien, en fait. Ouais.
C'est même pas forcément une fatigue physique ou un vrai surentraînement au sens propre du terme. Mm-hmm. Si on en est là, bon, ben là, pour le coup, c'est non seulement c'est perdu pour la course, mais c'est perdu pour pas mal de mois, pour pas dire plus. Mais effectivement, ça, t'as tout à fait raison. Et le cas typique, c'est l'UTMB. Parce que l'UTMB, c'est une date où, en général, les gens sont en vacances dans les semaines d'avant, etc. Je me souviens pour préparer donc la deuxième édition du livre, là j'ai interviewé Christophe Malardet, qui est que tu connais sans doute, hein, qui est l'entraîneur de François Den, et puis lui-même un ancien coureur et qui entraîne depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est une des choses qui m'a dit, et il a tout à fait raison, c'est de, je me souviens plus exactement comment il l'a dit, mais en gros ça voulait dire le mois d'août c'est long, quoi. Et effectivement, t'es au mois d'août, t'as envie d'aller en montagne, t'as envie de sortir, etc. Et donc tu vas accumuler de la fatigue et tu vas pas avoir envie de faire ce que, même si tu le sais, alors si tu le sais pas, bon voilà, pour le coup t'as une excuse, mais quand même, ça commence à être su un petit peu maintenant, tu vas pas passer par la phase d'affûtage qui doit être assez longue et qui à l'UTMB tombe au moment où il fait super beau et t'as envie de sortir. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut savoir se discipliner aussi. Et lui, c'est pour ça qu'il est, j'y pense parce que je sais plus ce que t'as dit, mais en disant, je sais plus exactement comment t'as formulé ça, mais en tout cas l'idée c'était de dire, moi je préfère, lui il me disait, je préfère que mes athlètes ils aient une préparation courte et ciblée. Et voilà, comme ça, justement, ils arrivent pas à la course complètement cramés, quoi. Même si peut-être on pourrait optimiser un peu plus en faisant un peu plus. Lui, il préfère faire des choses plus courtes, mais où les gens sont vraiment investis, pleinement investis. Et puis après, couper franchement et après, il y a différentes façons de faire de l'affûtage en fonction des coachs. Par exemple, Patrick Bringer, il a une autre approche du truc qui est encore un peu différent. Donc, je ne peux pas développer aujourd'hui, mais et puis il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent mon livre, mais donc j'explique ça effectivement dans le bouquin, où lui il propose autre chose avec deux phases, et c'est des choses que j'avais pas en tête, et c'est intéressant de discuter justement avec des gens qui ont d'expérience de terrain aussi pour ça, et après ils ont raison, ils ont pas raison, j'en sais rien, mais en tout cas c'est des gens qui entraînent et qui entraînent des gens qui ont du succès, donc ça doit pas être si mal.
Ça doit pas être si mal. Et puis une méthode, elle est aussi soumise à différentes sous-méthodes en fonction des athlètes. Parce que s'il suffisait d'avoir une méthode et de l'appliquer bêtement à 20 mecs de la même manière ou 20 nanas, bah, ça se saurait. Donc il y a certainement un courant de pensée et puis des sous-méthodes en fonction des préférences des athlètes.
Bon, c'est même pas des sous-méthodes, c'est effectivement chaque personne est différente. Ça, c'est un des principes les plus importants de l'entraînement, c'est ça, c'est l'individualisation.
Mais ça, tu vois, il y a deux semaines, c'était le départ d'une épreuve ultra à vélo à travers l'Espagne qui s'appelle Desertus Baicus. Et j'avais deux gars au départ. Un ultra expérimenté qui était là pour être devant et un dont c'était la première fois, le premier ultra et tout, ils se reconnaîtront tous les deux. Et j'appelle les deux à quelques heures du départ. Celui qui n'était pas expérimenté, il me dit « bon, bah, là, le départ était à minuit hein. ». Il était 19h, 20h, il me dit « bon, bah là, on va aller dans l'aire de départ et tout, on va aller voir comment ça se passe. » Je dis « mais pourquoi faire ? Pour aller profiter de l'ambiance du départ, pour trépigner, pour boire des bières avec les autres et être debout et pas dormir ? Mais reste tranquille et sors de l'hôtel 45 minutes avant. » Il me dit « ouais, je vais faire ça. » On raccroche, j'appelle l'autre, il me fait « allô ?» Il était en train de dormir, ouais. Il était 19h.
C'est ça. Ouais, bah, Camille Bruyas me disait que, et c'est sûrement une de ses forces, elle avait été capable de faire la sieste sans aucun problème, de dormir, puisqu'elle m'a dit une heure ou une heure et demie, la sieste du jour du TMB qui part à 6h30, donc c'est vraiment quelques heures avant. Et Jean-Michel Fort-Vincent, le manager du Team Salomon, me racontait que François Den, pareil, le vendredi, alors c'était à l'époque, hein, la fameuse édition 2017 de l'UTMB où il y avait tout le monde là. À l'époque, il avait encore des vignes. Et il était là au téléphone à discuter, à recruter ses vendangeurs pour les vendanges qui commençaient le lundi. Et voilà, c'est cool. Et je pense que évidemment, c'est pas ce qui explique entièrement leur niveau, mais ça peut pas gêner, ça c'est certain. La zénitude.
Bah, c'est relié un petit peu. Bah déjà, c'est propre à chacun. Évidemment, on est tous différents. On a tous une manière d'aborder. On n'est pas tous du tout armés de la même manière sur ces trucs-là. Et il y a peut-être aussi l'expérience qui y fait. Donc,
ouais, puis le caractère. Hein,
aussi, oui, la personnalité de chacun. Là, malheureusement, là-dessus. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit une fatalité parce que je me souviens d'un championnat de France de duathlon où je me suis endormi dans un sens et le lendemain matin avant le départ j'étais réveillé dans l'autre. J'avais plus la tête au même endroit en fait au réveil. Donc j'avais bougé dans mon lit la nuit et tout et maintenant ça va beaucoup mieux. Je dors très très bien une veille d'épreuve mais quand j'étais plus jeune j'étais carrément flippé, ouais.
Non mais avec l'expérience quand même les choses s'améliorent mais. Plus ou moins en fonction des gens.
Et puis à nos âges, maintenant, on n'en a plus rien à foutre. Hein, donc qu'on loupe ou qu'on ne loupe pas, ce n'est pas très important.
Je pense qu'on a compris qu'on était vieux. Ce n'est pas peine d'en mettre une couche.
Non, mais toi, tu es vieux. Moi, j'ai 45 ans la semaine prochaine. Il n'y a que toi qui es vieux ici. Regarde.
C'est vrai. Moi, si c'est pour avoir ta coupe, je préfère encore pas avoir de cheveux. Hein,
vaut mieux pas avoir de cheveux que d'être coiffé comme moi, c'est clair. Dis-moi, il y a quand même un truc qui me turlupine là-dedans, c'est qu'on a parlé de fatigue périphérique qui éventuellement, bon, bah, y a les métaboliques, il y a les substrats, etc., il y a tout. Donc ça, c'est relié à la préparation, ou à la condition physique, etc. Est-ce que la fatigue centrale, est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation dans la fatigue centrale? Si c'est un signal du cerveau qui dit « là, j'atteins mes limites alors qu'en fait, c'est pas vrai » ou « j'ai l'impression de faire un effort violent, donc un ressenti d'effort », est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation dans cette fatigue centrale? Est-ce qu'on peut l'entraîner?
Alors, c'est une bonne question et encore une question.
Putain, il m'aura fallu 55 minutes pour poser un truc pertinent.
Voilà, c'est là, wow, c'est enfin une bonne question. Et si ça te turlupine, je vais essayer d'y répondre.
Merci.
Alors, pas de gros mots, hein, toujours. On est d'accord. Du coup, est-ce que ça s'entraîne? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fatigue centrale, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où la fatigue centrale, elle dépend aussi de ce qui se passe à la périphérie. Donc je sais que c'est un peu chiant, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Tu as des récepteurs à la périphérie, dans les muscles, les tendons, un peu partout, les articulations, qui te renvoient, qui renvoient au système nerveux des informations, et tant mieux, hein, sur ce qui se passe. C'est bien que ça soit comme ça, effectivement. Ouais. Et du coup, si tu t'améliores même au niveau périphérique, tu vas aussi diminuer ta fatigue centrale. Donc ça, c'était une première chose, mais ça répond pas à ta question. Je pense que ta question, c'était plutôt, si je la reformule, pour être sûr que j'ai bien compris, c'était est-ce qu'on peut, finalement, c'était est-ce qu'on peut diminuer la réserve de sécurité? C'était un peu ça avec l'entraînement, hein, c'est ça. D'accord. Et ben ça, on n'en est pas absolument certain. Ça semble évident quand tu te dis, effectivement, à force de répéter des efforts intenses, etc., on va pouvoir aller piocher de plus en plus loin. Alors ça, c'est sûrement vrai pour des gens qui font pas de sport, voire même certains qui ont une espèce de ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire que dès qu'ils font un petit effort, qu'ils contractent un peu leurs muscles, ils sont pas bien. Donc ces gens-là, s'ils se rendent compte que finalement, quand on bouge un peu, ça va, tout va bien, au contraire, on se sent mieux. Pour ces gens-là, assez vite, on peut changer, on peut imaginer qu'ils peuvent se fatiguer de plus en plus sans craindre les conséquences de ça. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui est entraîné, qui a déjà couru un ultra ou fait des ultras en vélo, enfin, ou même des programmes d'entraînement classiques, sans même parler d'ultra, versus quelqu'un qui serait très entraîné, qui serait élite, est-ce que les élites sont tous capables d'aller plus loin dans l'effort? Eh ben, en fait, c'est pas certain. On peut penser que ça fait partie des déterminants de la performance. C'est finalement une des définitions des capacités mentales. C'est pas la seule, hein. On en a évoqué plein d'autres, mais en tout cas, ouais, c'en est une. Être capable de se mettre minable, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est sûr que si on n'est pas capable de faire ça, on peut pas être un athlète de très haut niveau. Mais on sait aussi que la performance, elle est multifactorielle. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient très performants, mais qui soient un petit peu moins performants sur ce côté-là. Et inversement, des gens qui sont beaucoup moins performants, mais qui sont super forts là-dedans et qui sont capables. Ils n'ont pas la bonne VO2 max, ils n'ont pas les bons gènes, etc. Mais mentalement, ils sont super durs au mal. Et est-ce que c'est pas plus une... Bon, je sais pas si on peut parler de personnalité, mais en tout cas, un trait de caractère ou une capacité un peu innée comme ça, être capable de se faire du mal, que quelque chose qui s'entraîne vraiment, naturellement. La logique voudrait te dire oui, ça s'entraîne. La réalité, c'est que quelles sont les évidences scientifiques qui le prouvent? Là, comme ça, je réfléchis et j'en vois pas tant que ça. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont, pas de très haut niveau, qui sont y compris, qui n'ont pas fait du sport depuis très longtemps, depuis des années et des années, et qui sont capables de se mettre vraiment, vraiment minable. Mmh. Mais bon, voilà, après, on voit l'arrivée des courses, certains athlètes de haut niveau qui se mettent dans des états. Je ne pense pas que ça soit du cinéma. Ouais. Tu te dis, ouais, quand même, ils ont. Et moi, par exemple, ça se fait pas trop de parler de soi, mais quand c'est pour dire du mal, je pense que ça passe un peu mieux. Je pense que c'était une de mes limites. J'ai couru à un niveau assez honnête, mais je pense que je faisais partie des gens justement qui avaient peut-être pas un mental suffisant. Pourtant, je me suis quand même, j'avais l'impression moi de me faire quand même assez mal. Et quand je vois l'état de ma cheville après le tour des gens avec l'inflammation, etc., je pense que quand même j'ai pioché assez loin, mais moins que d'autres. Je suis assez persuadé de ça, qu'à un moment donné, le mental m'a fait un peu défaut pour aller plus loin, pour performer plus. Je pense, mais c'est tout à fait subjectif.
C'est quoi le mental? Est-ce que c'est juste
tu m'emmerdes avec la question.
Bah, en même temps, il ne fallait pas passer...
Je suis un physiologiste, tu me parles que de mental et de bâillement depuis le début. Non, je plaisante. Non, mais je ne suis, je suis pas un spécialiste du mental.
Je répète que j'ai
pris un spécialiste dans mon bouquin parce que justement, j'étais pas un spécialiste.
Tu n'es pas juste un rat de laboratoire, tu n'es pas juste un chercheur qui manipule ses petites éprouvettes.
Non, donc, mais j'ai pas
donc
travaillé.
Tu dois bien avoir une petite idée quand même.
Alors, tant que coureur, je peux te donner mon idée. C'est quoi le mental? Je viens de te donner une... On en a parlé depuis trois quarts d'heure déjà du mental. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non, c'est plus sérieusement, c'est ta question, c'est vraiment ça? C'est quoi le mental?
Bah ouais, parce qu'on dit ça, c'est j'avais pas le mental, mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire
qu'il faut se défoncer tout le temps?
Non, une des définitions du mental, c'est d'être le plus fatigué, d'être très fatigué à l'arrivée. Pour moi, ça peut être ça une définition. Mais vraiment très fatigué, c'est-à-dire pas faire semblant d'être fatigué. Et je crois qu'il y a des gens qui le sont vraiment et d'autres qui font semblant de l'être parce que justement, ça fait bien de dire j'ai un gros mental, t'as vu dans quel état je me suis mis. Mais en fait, il faudrait l'objectiver. Je crois pas que ça a été réellement fait parce que c'est compliqué à faire, notamment si on veut le faire sur des athlètes de haut niveau. Mais on en revient en fait à la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je crois que c'est un des paramètres de la performance, mais c'est pas le seul. Et donc, c'est largement possible, enfin, c'est même une certitude, que certains athlètes, même de très bon niveau, sont pas, à leur max à cet aspect-là, sur cet aspect-là, et qui compensent par d'autres aspects de la performance. Et donc, comment on pourrait l'objectiver? Ben, en allant mesurer effectivement la fatigue, avec des stimulations électriques, par exemple, et l'entraînement. Et notamment la préparation mentale, même si on a dit que c'était plein de choses pendant la course, etc. Mais sur les dernières heures, le but, ça devait être de débrancher le cerveau, effectivement, et d'aller piocher le plus loin possible. Et la préparation mentale peut servir à ça, ou le mental qu'on a naturellement, de façon innée, peut servir à ça aussi. Et maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps? Non, évidemment, parce que ça veut dire que tu es un badabeux si tu fais ça. Un badabeu, ça veut dire que t'es un benèche, parce que c'est un peu stéphanois, je crois, je sais pas si tout le monde a compris, dans le sens où si tu vas piocher si loin à chaque fois que tu fais une séance d'entraînement, ça veut dire que t'as pas bien compris les principes de l'entraînement. Donc maintenant, à certains moments, il faut le faire, c'est clair, y compris à l'entraînement d'ailleurs, mais évidemment surtout en course.
Est-ce qu'on peut parler de la perte de force et d'un plateau après plusieurs heures? Est-ce que la perte de force est linéaire ou est-ce qu'au contraire, elle va atteindre un plateau et diminuer beaucoup moins lentement à un moment donné?
Alors ça, c'est bien, tu as bossé tes dossiers, hein, je vois, c'est bien. Ça, c'est effectivement des choses qu'on a publiées, qu'on a confirmées par la suite. Toutes les études qu'on fait confirment un peu cette relation effectivement entre la perte de force, donc une des définitions de la fatigue neuromusculaire, et la distance de course. En course à pied, sur les quadriceps, c'est plus ou moins vrai sur les mollets aussi. Effectivement, donc c'est pas du tout linéaire, c'est une augmentation un peu exponentielle, comme enfin pas exponentielle, comment dirais-je, non linéaire, avec un pour qui atteint un plateau autour de quelques heures d'effort, on va dire 10 heures d'effort, 10-12 heures d'effort, on arrive autour de 35-40% de perte de force en moyenne, alors avec des grandes variabilités entre les sujets, ça renvoie à ce qu'on fait à la discussion qu'on vient d'avoir, je pense. Exactement. Que... bref, mais en moyenne, on retombe toujours plus ou moins là-dessus, avec un plateau, on n'a pas non plus étudié toutes les distances du monde, mais en tout cas, sur entre 10 et 30 heures, on est effectivement sur un plateau, et puis après, on avait fait une étude sur le tour des géants, où là, en fait, on était moins fatigué. On avait perdu moins de force, d'où la conclusion qui qu'il est plus facile de faire le 200 miles que 100 miles. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une, il y a des limites à la définition de la fatigue en considérant uniquement la, la perte de force. Bon bref, ça c'était pour la blague, mais enfin pour la blague. Plus ou moins,
fait,
parce
la
que c'est vrai, c'est quand même la réalité.
Il y a quand même un fond de vrai. Ouais.
Alors pourquoi ça pourquoi en particulier, pourquoi il y a ce plateau bah parce que finalement on s'autorégule et que voilà, il y a ce maximum que l'on atteint. Là encore, ça renvoie à la notion de réserve de sécurité. On va, c'est pas parce qu'on va faire plus longtemps qu'on va être forcément plus fatigué. C'est vrai au début, mais après, c'est, il y a ce plateau. Parce que on va, forcément, si c'est plus long, ben, on va aller moins vite. Et après, pourquoi ça rediminue derrière? Bah parce que justement, les gens, sur un temps des gens, ils s'arrêtent. Donc, c'est plus le même, exactement le même type d'effort. Là, pour le coup, il y a de la récupération, il y a du sommeil. Et donc, ils sont, notamment, je pense, d'un point de vue central, sont un petit peu moins fatigués. Après, il n'y a pas une énorme différence, hein, parce que plutôt que d'être à 35%, ils étaient à 25%, mais quand même, c'est significatif.
Donc là, à l'instant, tu me parles de perte de force de 35 à 40%. Est-ce que c'est vraiment corrélé à une perte de vitesse ou d'efficacité? Tout à l'heure, on parlait de coût énergétique et d'efficacité. Est-ce que cette perte de force induit forcément le même niveau de perte de, d'allure? Ou est-ce qu'au contraire, en travaillant le coût énergétique, l'efficacité, donc le geste, on peut compenser cette, cette perte de force avec un geste plus efficace? Ou est-ce qu'au contraire, un geste plus efficace fait recule ça? Ou est-ce qu'il y a une manière plus fine de le formuler?
Là, tu as dit trois choses différentes, donc on peut les reprendre les unes après les autres, mais comme, eh ben je, souviens, comme je me souviens déjà plus de la première, il va falloir que tu me la rappelles.
Est-ce que la perte de force induit forcément une perte de vitesse?
De vitesse. Bonne question. Tu vois, c'est déjà la deuxième. Ça fait bientôt plus d'une heure qu'on y est.
Dis donc, t'es taquin quand même, hein, pour un scientifique. Ah bah
c'est toi qui as commencé, hein.
Ouais, mais moi, je suis pas un scientifique.
moi non plus, je sais pas ce que c'est qu'un bâillement, donc je suis pas un scientifique non plus. Donc, est-ce que, répète la question déjà, est-ce que on est la perte de force est corrélée à la perte de vitesse?
C'est j'ai trouvé. De la mémoire après, ouais, hein, ouais, dis donc.
Bah, c'est l'âge, hein, on vient de
prendre. Oh là là là.
C'est l'âge. Croyais... on va pas tout ramener à ça. D'ailleurs, j'ai pas eu de café, hein. Il est, c'est juste le pic, là, avec le.
Putain, tout à l'heure, je te parlais de
la pression
de
du sommeil. Donc, si tu continues, je réponds pas à ta question. Donc,
bon, alors, est-ce que perte de force égale perte de vitesse?
J'en sais, doucement. J'en sais rien. Okay. Non, plutôt non. La vérité, c'est qu'on l'a pas vraiment testé. Je suis en train de réfléchir à des études qui permettraient de répondre de façon un peu objective à cette question, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Donc non, on globalement, quand on est fatigué, effectivement, on va perdre de la vitesse. Maintenant, de dire pour tant de perte de force égale tant de perte de vitesse, je crois pas que ça soit aussi simple que ça. Mais alors après, ça dépend aussi de si on parle de la vitesse max ou de la vitesse en course. Mais j'imagine que c'est plutôt la vitesse en course. Il y a quand même un lien dans le sens où, et là encore, ça renvoie au modèle de la chasse d'eau, c'est-à-dire que si tu perds de la force, comment ça se passe en fait? Si tu perds de la force et que tu as besoin de courir ou tu veux courir à la même vitesse, qu'est-ce qui se passe? Tu perds de la force, donc tu vas avoir besoin de recruter plus de fibres musculaires pour courir à la même vitesse. D'accord? Si tes premières fibres musculaires sont fatiguées, tu dois en recruter plus. Et donc, tu as une commande du cerveau vers les muscles qui augmente. Et donc, et on pense qu'il y a une copie vers le cortex sensitif qui te fait sentir l'effort comme plus difficile. Donc, tu as en fait une hausse de la perception de l'effort. Et donc, comme c'est pas quelque chose que tu as envie de subir, en tout cas, si tu te dis, si je dois subir cette augmentation de la perception d'effort pendant encore des heures, ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. Donc, je ralentis. Et c'est pour ça, indirectement, qu'on a une relation entre la perte de force et la vitesse. Ça a été pas mal, cette réponse-là, hein.
Ouais, c'était presque crédible.
Hein, c'était presque crédible. Ouais. Alors, tout bah, ça, écoute, c'est, vais, ça, c'est évidemment écrire, mon interprétation. Il n'y a absolument aucune évidence là-dessus.
Justement, mais... J'écrirai à ton frère parce que lui, par contre, ses diplômes, il ne les a pas usurpés. Donc, je lui demanderai son avis.
D'accord, pas de souci. je le salue d'ailleurs. Je ne sais pas s'il nous écoutera. Mais je sais,
ça m'étonnerait.
Il n'écoute pas, des émissions comme ça. Ça
m'étonnerait. Non, c'est un mec sérieux.
Il est sérieux.
C'est un mec sérieux. Attends, oula.
Ça, c'est ce que les gens croient. Mais en fait. En fait, il est aussi con que moi, faut pas croire.
Bah, tu connais cette citation de Frédéric Chopin qui disait les gens qui ne sourient jamais ne sont pas des gens sérieux.
Donc, deuxième question. C'était quoi déjà?
J'en sais rien. tu me poses des trucs. Qu'est-ce que.
Ah, mais en fait, si tu me poses des questions et que tu n'en as rien à cirer, il faut me le dire parce que j'ai autre chose à faire. Hein. Moi, il est déjà 3h15.
Ah oui,
si ça t'intéresse pas, tu le dis. Mais,
Non, mais c'est vrai, j'ai bien compris que tu avais une sieste à faire et un café à aller faire couler. Il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que on peut faire. Alors, c'est un petit peu lié. Alors, je connais déjà ta réponse. Tu vas me dire oui et non, bon, ça dépend. Je ne sais pas. Mais on peut y réfléchir. J'ai l'impression que c'est à peu près la réponse que tu appliques à toutes les questions.
Vas-y.
Est-ce qu'on peut imaginer une optimisation du coût énergétique ou de l'efficacité du geste pour compenser la perte de force?
Alors, oui. Je ne sais pas, mais on peut y réfléchir.
Ouais, d'accord. Parce que tu vois,
j'écoutais pas la question. Vas-y, répète.
En fait, je pense souvent aux musiciens. Aux virtuoses qui jouent extrêmement vite et quand on les regarde jouer, on a l'impression que c'est facile, ou aux lanceurs de javelot, où on a l'impression que c'est facile et on se met derrière un instrument, on se met au cul d'un javelot et on se dit bah non, en fait, c'est absolument pas facile. Et on se rend compte que la vitesse est générée par l'efficacité du geste et par l'économie du geste, et que la vitesse vient de là et non pas par la force brute et pure et dure.
Ouais, ça,
donc à partir du moment où on a une perte de force, est-ce que l'on peut compenser donc globalement la perte de force par une meilleure technique, si on prend l'exemple d'un musicien?
Est-ce qu'on peut compenser, en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que la technique en course à pied, comme dans le lancer du javelot, elle est importante. C'est une banalité, mais enfin presque autant banale que ce que tu viens de dire. Maintenant, est-ce qu'on peut compenser? Ça veut dire qu'on serait capable, quand on est plus fatigué, d'être plus économique quand on est au repos que quand on n'est pas fatigué. Ça voudrait dire qu'on part en n'étant pas son optimum d'économie. Ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi on partirait en n'étant pas son optimum d'économie?
Tu peux répéter, j'ai pas compris.
Ouais, je crois que c'est toi qui as besoin d'un café. Quand tu dis est-ce qu'on peut compenser, ça veut dire que si on compense la perte de force par une amélioration de l'économie de course, ça veut dire qu'au départ, quand on n'est pas fatigué, quand on n'a pas de perte de force, on n'a pas une économie qui est optimale. Et quel serait l'intérêt de partir avec une économie qui n'est pas optimale? Donc ta question, c'est pas que la question n'a pas de sens, c'est que la réponse est non pour le coup. C'est une vraie réponse ferme et définitive, c'est non. Au contraire, même le coût énergétique, il se dégrade avec la fatigue. On devient de moins en moins économique. Ça peut être pour une histoire de force musculaire, ça peut être une dégradation de la coordination, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, la réponse à ta question est non. On compense pas, puisque si compenser, ça veut dire qu'on deviendrait de plus en plus économique. Par contre, on change.
Est-ce qu'on peut retarder
sa façon de courir.
Est-ce qu'on peut retarder alors?
Ben, si on est économique, on va retarder la fatigue. Voilà. Ça c'est oui. Ça, la réponse est oui.
On va retarder
la fatigue. Oui, quand je dis la réponse est oui, ça dépend. Je suis désolé, c'est pas qu'il faut réfléchir. C'est, excuse-moi d'être un petit peu nuancé. T'as peut-être pas l'habitude d'avoir des invités comme ça, mais c'est comme ça. C'est la réalité.
Les autres, habituellement, sont intéressants. Donc, forcément, effectivement, j'ai pas l'habitude.
je développe. Est-ce qu'on peut retarder si tu dis que, en étant plus économique et je cours à la même vitesse, je vais être moins fatigué? Oui. Mais ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que si t'es plus économique, tu vas pas chercher à être le moins fatigué possible, tu vas juste accélérer. Donc, si t'es plus économique, tu vas aller plus vite pour la même perte de force, pour la même fatigue.
L'idée dans
la performance, que ce soit sur le mental ou sur l'économie de course, c'est pas d'arriver en étant le moins fatigué possible. C'est d'aller le plus vite en étant à son maximum de fatigue. Donc, c'est ça que je dis, ça dépend. Pose les questions comme il faut et puis je pourrai répondre.
Non, non, mais je note.
Sois précis un peu dans tes questions.
Non, j'ai noté que Éric Lacroix était beaucoup moins chiant que toi, en fait, hein, quand même. Hein. Plus agréable. Bah, je ne sais pas si c'est le climat de la Réunion qui l'est réussi.
Déjà, je suis très vexé si tu m'avais dit qu'Éric était passé avant moi. Déjà, j'aurais refusé de participer à ton podcast.
Il n'est pas passé une fois, il est passé deux fois, Éric, parce qu'il était tellement loquace qu'on a été obligé de faire deux épisodes avec Éric.
Bon, je le salue en tout cas. Lui, il va peut-être nous écouter.
Alors, du coup, on est globalement d'accord, malgré le ton comique et faussement moqueur que l'on affiche, effectivement. Alors, j'ai quand même une petite nuance, moi aussi. Évidemment, on ne cherche pas à être de plus en plus économique au fur et à mesure du truc, et on l'est. Et le vrai sens de ma question, c'était est-ce que développer une technique, une économie du geste permet de reculer la fatigue ou l'apparition de ces signes ? Tu as dit oui.
Alors attends, je vais développer ça si tu permets. C'est une question importante. Moi, j'ai proposé autre chose. Pour un coup, ça n'a pas tout à fait, encore que si, j'allais dire, ça n'a pas un lien avec le modèle de la chasse d'eau, mais quand même, comme ce modèle, il explique à peu près tout. C'était de dire que moi, je suis assez convaincu que non seulement, donc bien sûr, d'une façon générale, il faut être le plus économique possible, mais il y a quand même des exceptions. Et on avait écrit un papier en disant, est-ce que parfois, il ne faut pas accepter de sacrifier son économie de course pour être plus performant. Toi qui as bossé tes dossiers, peut-être que tu as vu passer ça. Donc, l'idée, c'est de dire, par exemple, si je prends des bâtons, effectivement, si je me sers de mes bâtons, il se peut, bah, déjà parce qu'ils ont un certain poids, même s'ils sont hyper légers maintenant, c'est pas impossible que sur le plat ou dans les montées pas très pentues, il se peut que mon économie soit dégradée, c'est-à-dire que je sois moins économique. Donc, quelle idée de dire je vais être moins économique ? Bah, l'idée, c'est qu'effectivement, globalement, je suis moins économique. Par contre, si j'utilise les bâtons, toute l'énergie que je vais mettre sur les bras, bah, je vais pas la mettre sur les jambes. Donc, je vais économiser mes jambes. Et au final, en course à pied, c'est quand même ça la limite. Même chose avec, par exemple, des chaussures. Je prends des chaussures minimalistes. Ok, c'est peut-être l'idéal en termes d'économie de course. Est-ce que réellement c'est une bonne idée entre elles de partir avec des chaussures en ultra, de partir avec des chaussures comme ça? Même chose avec la fréquence de la foulée. Tu peux te dire, ma foulée normale, c'est sûrement la plus économique. Est-ce que si je pars avec une foulée un petit peu plus en fréquence, je vais pas induire un petit peu moins de dommages musculaires et donc au final, je vais m'y retrouver. Donc voilà, il y avait cette première chose là que je voulais. Alors après. C'est un débat, c'est des choses qu'on a proposées, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison. Si on l'a dit, c'est qu'on pense avoir raison. Donc moi, je pense qu'on peut parfois sacrifier un petit peu son économie de course pour être plus performant au final. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qu'on a pu aussi montrer, c'est qu'effectivement, on ne court pas pareil. Là, on ne parle plus d'économie de course forcément, c'est juste de technique de course, de façon de courir. On ne court pas pareil à la fin d'un ultra, où on a des dommages musculaires qu'au début, et notamment, une des adaptations qui se fait naturellement, c'est qu'on augmente justement la fréquence de foulée. Tout le monde plus ou moins fait ça, et l'explication, c'est soit parce qu'on est moins fort, donc on ne peut plus avoir la même amplitude, donc ça répond un peu directement à ta première question de tout à l'heure, une de tes questions de tout à l'heure, soit c'est une façon de minimiser les douleurs, les dommages, etc. Et on a pu montrer que c'était... j'étais assez convaincu de ça, mais en tout cas, quand on induit le même type de fatigue qu'un UTMB, par exemple, mais en faisant des sprints, on ne change pas du tout sa façon de courir. Donc, ce n'est pas une histoire de perte de force qui nous fait changer notre façon de courir. Si on augmente la fréquence de foulée, qu'on minimise les oscillations du centre de gravité, c'est juste parce qu'on marche sur des œufs pour ne pas avoir trop mal aux cuisses, quoi. Donc, c'est une histoire de perception de l'effort. Est-ce que c'était clair ?
Oui.
J'ai pas dit ça dépend, tu vois, ça fait au moins 40
ans. Non, c'est bien. Au bout du compte, ce qui me paraît important dans tout ce qu'on vient de dire, encore une fois, sous un ton faussement, volontairement léger et un petit peu badin, c'est que tout est nuance et que il n'y a pas de recette miracle. Et non. Tu viens de le dire, on peut sacrifier des fois, on peut faire à vélo, à un moment donné, décider de passer vite à un endroit pour passer moins de temps à cet endroit et plutôt que de s'arrêter, de passer volontairement lentement on va accélérer, donc sacrifier un petit peu à un moment donné, justement pour pas rester des plombes à cet endroit-là. C'est aussi d'induire la notion de nuance, justement, et de d'adaptation à un milieu, à une situation, et de pas rester bloqué sur un modèle.
Ouais, c'est pas qu'une histoire d'ailleurs d'individus, ça c'est le plus important évidemment, la différence entre les gens, mais même pour une même personne, en fonction des mois, des années, peut-être des jours de la semaine, j'en sais rien, ce qui est la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et ça, en entraînement, c'est le plus important. L'individualisation, c'est aussi par rapport à soi-même, c'est en fonction de ses conditions. C'est-à-dire qu'on peut être parfois dans des bonnes conditions pour s'entraîner, etc. Puis après, bah, t'as un enfant qui arrive, forcément, tu vas dormir moins. Si tu essaies de t'entraîner de la même façon, il y a des chances que ça se passe mal. Donc, ça peut être ça aussi, effectivement.
Ça peut se passer mal à plusieurs niveaux, en effet. Effectivement. J'ai une dernière question. Est-ce que le concept de la chasse d'eau, est-ce que tu as déposé la marque ou est-ce que c'est juste un concept fumeux de scientifique?
Bah, j'aurais bien posé Jacob de la Font, mais c'était déjà pris, donc j'ai pas pu.
Tu peux faire un anagramme peut-être, genre ouais. Jaffon de la Cob.
Ouais, ça aussi je l'avais déjà entendu. C'est pas vrai, en plus elle est bonne, je te félicite.
Elle est pas de moi.
Du coup, la question, c'est est-ce que c'est une marque Non, c'est évidemment pas une marque. Mais c'est est-ce que c'est que pour s'amuser? Non. C'est évidemment, ça me plaisait que ça soit une chasse d'eau, mais c'est un vrai article dans une vraie revue scientifique, oui. Aussi bizarre que ça puisse paraître, qui date de 2011, que je peux mettre même à disposition des gens qui écoutent le podcast.
Et oui, tu avais déjà fait la remarque dans Let's Strike, tu avais dit qu'on pouvait t'aigrir. Et comme je suis écouté par des milliers d'auditeurs, je propose qu'on submerge la boîte mail de Guillaume.
Mais bon, il faut lire l'anglais. Donc, vu le niveau du podcast, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand monde qui parle l'anglais parmi tes auditeurs.
Bon, ça peut être. Non, mais en plus, le pire, c'est que tu as raison. Tu verras, ils sont cons comme leurs pieds. C'est pas possible.
Bon, en tout cas, je sais pas si on aura été très clair, mais en tout cas, on a bien rigolé. C'est déjà pas si mal. C'est même le plus important. Non, mais pour répondre quand même à ta question, c'est vrai que c'est pour m'amuser, mais c'est pas que pour m'amuser. Je suis assez convaincu que ce modèle, il explique pas mal de choses. Et on m'a donné, je trouve, pas mal d'exemples aujourd'hui. Voilà. Après, on peut vivre sans la chasse d'eau, mais quand même, quand on a les WC dans la cour, c'est plus chiant, quoi.
Bien. Eh bien, Guillaume, traditionnellement, je termine par une minute de solitude où j'abandonne mon invité, mais je pense que terminer sur cette théorie de la chasse d'eau et le côté reversible de la chasse d'eau, quel que soit le moment de la course, je trouve que c'est plutôt pertinent.
Ouais. Donc, si c'était un vrai podcast, là, tu ferais un montage et tu mettrais un bruit de chasse d'eau pour terminer là-dessus, ça serait vraiment de la gueule.
Ça c'est trop académique. Ouais. C'est trop académique. Ce qui te ressemble parfaitement d'ailleurs, parce que tu n'as jamais vécu dans la vraie vie, vu que tu travailles à l'université.
C'est ça, exactement.
Et voilà.
Je vais remettre ma cravate de ce pas, je l'avais quittée là, mais...
Mais oui. Bon, écoute, moi je vais couper, il faut juste que je te raconte une petite anecdote sérieuse après, et voilà. Donc, histoire de finir en bonne et due forme, Guillaume, merci beaucoup. Je te souhaite tout le succès possible dans tes aventures futures. Et voilà. Tu veux dire quelque chose quand même pour conclure?
Non, non. Je pense qu'on a assez dit de bêtises pour aujourd'hui.
On a assez dit d'âneries.